terror states.
Non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, 106e émission, 26e de la saison, 8e du nom. Ce soir, on parlera Bricolotech. Rendez-vous demain à Kawenga. On parlera de Montpellier, territoire numérique. Sans oublier, évidemment, l'indispensable revue de presse de l'April. Divergence numérique, votre émission sur les logiciels libres que vous pouvez écouter sur le 93.9 de Divergence FM chaque jeudi à 21h en direct, mais aussi sur Radio Escapade sur le 103.3 dans le nord du département et sur CKIA 88.3 MHz à Québec. Nos amis gangeois et québécois que nous saluons bien bas. Avec quelques petites pauses musicales du fil rouge, elle est libre, ma musique mais des semaines à venir avec du TDBT. Les nouvelles du front, c'est la revue de presse de l'April qui nous emmènera chez lemonde.fr, ITR Manager, CIO Online, PC Impact, Webdo, Le Tigre ou Les Échos. On fera aussi un petit tour du côté de l'actualité autour d'OpenOffice.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 15 de l'année 2011. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir?
Eh bien, il y a pas mal de choses. On a quelques 8 articles à présenter. On va parler un petit peu générique à propos d'empathie. Un article qui critique un peu l'open source à géométrie variable. On va voir de quoi il s'agit. Le SIGREF, encore une fois, qui réapparaît. Alors là, c'est plutôt le Parti Socialiste et son ordre de bataille et les idées qu'ils mettent en avant. Une mauvaise nouvelle, mais on s'y attendait, l'Union Européenne et Microsoft. Le logiciel libre en Tunisie, encore cette semaine. Et puis un article intéressant sur la privation du web. Et pour finir, on va discuter hacker.
Très bien. Alors premier article lemonde.fr, Jérémy Rifkin, une empathie nouvelle gagne l'humanité, donc par Frédéric Joigneau.
Et un article qui ne parle pas ou presque pas de logiciel libre, mais que j'ai inclus quand même.
Voilà, la semaine prochaine, un article sur le tricot.
N'est-ce pas? Ça fera pas de mal. Non, c'est intéressant. Le gars, c'est donc Jérémy Rifkin, je ne connaissais pas. Toi, tu en avais
entendu parler. Donc c'est un type qui, c'est ce qu'on appelle un futurologue, entre guillemets, quelqu'un qui fait de la prospective, un Américain.
Qui a toujours tort, forcément.
Qui a nécessairement tort. Les gens qui font de la prospective ont toujours tort, ils le savent. C'est normal.
Et donc, ce gars-là, voilà. Il a l'air d'être écouté par les grands de ce monde.
Oui,
si
il a
j'ai
beaucoup d'influence. Bah, il a dit des choses qui on l'accuse parfois, c'est ce que dit l'article, d'être un peu utopiste en tout cas. Mais en tout cas, il a beaucoup d'influence et il s'est prononcé sur des sujets très très variés.
Et donc là, si je comprends bien, il est en train. Alors, il a mis en avant dans le passé des articles sur la biotech, la fin du travail. Il y a eu des articles et des livres de sa part qui ont un peu fait parler d'eux. Et là, il est en train de discuter comment il présente ça. C'est l'empathie et le fait qu'on va changer le mode de fonctionnement de l'humanité grâce au réseau.
Alors, il dit même que ça a déjà changé. Et en fait, ces arguments reposent notamment sur des questions d'information et de communication, en disant qu'au travers des réseaux, ça avait commencé déjà avec la télévision, il cite McLuhan, hein, qui est donc un sociologue et spécialiste des sciences de l'information et de la communication des années 60, prend l'exemple de ce qui se passe au Japon, notamment de Fukushima, en disant que y a un élan de solidarité et qu'à partir du moment où on est relié et qu'on voit qu'il y a des images, des drames, on se retrouve à se sentir concerné et que les gens ont maintenant conscience qu'on est tous sur la même planète et que ce qui se passe à Fukushima, ça peut nous arriver aussi et que quand on pollue quelque part, on pollue partout finalement, parce que la planète est ronde et que ce qui part à un coin finit par nous retomber dessus.
Et donc moi ce que je retire, c'est mon côté optimiste, hein, donc ça doit te faire hurler d'ailleurs, mais c'est que c'est quelque chose de vraiment positif, on évolue dans un bon sens, et j'espère qu'il n'a pas trop tort cette fois-ci, mais en tout cas il met en avant cette empathie, il est en train de parler des réseaux, les réseaux sociaux, mais aussi le logiciel libre, il fait mention à la fin, il parle des révolutions. Allez lire cet article, c'est sur Le Monde, alors lemonde.fr c'est la section week-end ou magazine, donc une bonne chose à lire. dire, et je sais pas s'il y aura d'autres.
Vous pouvez aussi sur le site de l'April où il y a la revue de presse et cliquer le lien.
N'est-ce pas? Ça fera pas de mal. Alors, article suivant, c'est itrmanager.com, l'open source à géométrie variable de Stéphane Sabag. Bon, un article que j'ai trouvé un petit peu confus. Je sais pas si, qu'est-ce qu'on a pensé.
Ouais, alors le fond de l'idée de cette personne qui est le patron d'une boîte, hein, et de dire oui, que. Le
président de Qualipia.
Hein, oui, voilà, bah, si, tu, ouais, si tu veux. Donc l'idée c'était de dire qu'il y avait les principes de l'open source, et il utilise bien le mot open source, et que c'était bien joli, mais qu'on avait toute une série de démonstrations comme quoi c'était un petit peu hypocrite. Alors il y a des éléments qu'on a cités ces dernières semaines, notamment Google et Android.
Et il fait beaucoup mention de Google, hein, c'est vraiment son cheval de bataille, et il explique que c'est eux ils sont en train de dénaturer le libre.
Voilà, ils ont choisi pour Android une licence non copyleft, qui est la licence Apache.
Alors il semblerait que ça c'est assez récent. Ça doit être leur développement qui sont passés de GPL, donc la licence qu'on aime tous les deux, à une licence un peu plus libérale, soi-disant, qui s'appelle Apache.
Voilà, c'est du libre mais non copyleft, c'est-à-dire qu'on peut renfermer le code, pas interdire évidemment d'utiliser le code original, donc ça reste toujours libre, mais on n'a pas l'obligation de reverser les sources. C'est le principe des licences libres non copyleft. Donc il a toute une série d'autres arguments, dont un qui tombe furieusement à plat. Il prétend que il y a une affaire qui remonte à loin, qui est que Free, dans ses Freebox, utilise du logiciel libre.
Et oui, ils ont Linux embarqué, hein. On a tous Linux chez nous, en tout cas tous les utilisateurs de Free.
Et que la communauté a demandé à corps et à cri que ces modifications, que ce Linux soit redistribué, et Free a toujours refusé de le faire. Et donc là, l'auteur prétend que on n'a jamais été capable de mettre Free devant un tribunal.
Alors qu'en fait,
c'est en cours depuis 2008. Donc voilà, il faut qu'il se documente un petit peu. On peut lui envoyer les références du greffe, etc., s'il veut savoir ce qui se passe.
Oui, c'est assez étonnant parce qu'il y a des bons articles assez régulièrement sur ITR Manager. Là, cette fois-ci, j'avoue que ce côté circuler, il n'y a rien à voir, il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore, donc il ne faut pas attaquer les gens qui font du libre sans en faire. La récréation est finie. Il y a un furieux goût de circuler, on va faire de l'argent et les grands principes, on va les mettre de côté. Bon.
Alors, et c'est pas complètement absurde non plus. Il y a quand même des voix qui disent que dans le monde de l'entreprise, il y a un certain nombre de gens qui utilisent open source et libre comme du buzzword et qui finalement font des choses qui n'ont pas grand chose à voir. Et on le sait, enfin, c'est pas une invention de l'esprit. Il faut garder les yeux ouverts.
Je rebondis. CIO-online.com, le CIGREF étudie la maturité des entreprises en termes d'open source. C'est dans le même domaine, dans la lignée de Bertrand Lemaire. Donc le CIGREF, c'est le club informatique des grandes entreprises françaises. Donc des gens qui rigolent pas. Et ça doit pas être des rigolos là-dedans. Et donc ils ont sorti un rapport il y a déjà 2 semaines. On en a déjà discuté. Et là, c'est un nouvel article qui remet ça sur le devant de la scène. Hein, le fait que maintenant, le choix par défaut des entreprises, d'après l'article, c'est l'open source.
Voilà. Alors, le rapport, il est téléchargeable. Donc, on en a déjà parlé, on en reparle. Là, c'est quand même un outil intéressant. Je l'ai pas encore téléchargé, donc honte à moi. Mais en tout cas, pour si vous voulez faire du prosélytisme, ce genre de choses, c'est un élément solide dont on pourra pas taxer que c'est une bande de barbus dans leur coin qui défend le truc.
Là, c'est des barbus riches.
Voilà. Et donc, il y a un truc, moi, qui m'a fait rigoler. Tu dis qu'ils sont pas là pour rigoler, mais c'est quand même un truc assez marrant. C'est qu'une des conclusions de leur étude, notamment sur la façon dont les gens dans les services informatiques de grosses entreprises jugeaient la maturité des logiciels, ils ont jugé que Linux était moins mature que SUSE ou Red Hat.
Et oui, non, mais effectivement, on peut pas leur demander en plus d'être consistant avec eux-mêmes. Il y a des limites à tout, quoi. Voilà. Mais en tout cas, cette idée que maintenant le choix par défaut c'est l'open source, j'applaudis dès demain et j'espère que ça va se poursuivre et que ça va se concrétiser dans les entreprises chez lesquelles on bosse.
D'accord. Hein. D'un côté, c'est le jour où t'applaudis avec une seule main, tu m'appelles.
N'est-ce pas? Donc, pour suivre, c'est lemonde.fr, encore une fois. Donc, Christian Paul, l'abrogation d'Adopi ne signifie pas l'abandon du droit d'auteur, de Laurent Checola et Damien Leloup, donc, ont interviewé par chat.
Alors, c'était un chat des internautes du Monde avec Christian Paul, et donc les deux journalistes ont modéré tout ça. Donc Christian Paul, certains le connaissent, hein, c'est un député PS, un des rares députés qui connaît réellement les sujets de l'Internet, du logiciel libre. qui a été très actif sur DAVSI, je crois, et également sur Adopi, donc fait partie vraiment des alliés de notre cause. On sait que le PS a sorti un nouveau programme dans lequel il y a enfin quelque chose. et là, donc, il y a toute une série de questions. Ça parle de logiciels libres, ça parle de copies, de partage de fichiers sur Internet.
Oui, notamment, il admet qu'on va continuer à utiliser la redevance sur copies privées, ce qui fait un petit peu mal au cœur, mais
c'est
bon.
C'est son point de vue, oui.
Et il continue là-dessus, il pense qu'il y a des moyens de financement qui ont été ratés, notamment des choses qui correspondent à la licence globale.
Alors,
même s'il ne le dit pas explicitement.
Alors oui, mais enfin bon, on sait que lui était pour, alors il fait quand même partie d'un parti, hein, donc il y a d'autres personnes derrière. Moi je trouve que ses interventions sont très bien. D'une part, c'est quelqu'un qui connaît son sujet, ce qui est quand même suffisamment rare pour être noté et porté à son crédit. Enfin, chez les hommes politiques, c'est pas toujours, c'est rarement fréquent. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui a de la conviction. Moi je ne connais pas par ailleurs, je n'ai pas suivi toute sa carrière, ce genre de choses.
Oui, il a l'air de bien défendre. Voilà.
Notamment par rapport à la question de la licence globale qui était cette idée que par rapport à la copie fichier, on payait une somme fixe qui était redistribuée en fonction de ce qui avait été échangé. Là-dessus, il dit voilà, qu'en gros, on a perdu vachement de temps, qu'il y avait plein d'argent à faire arriver dans la création qui a été ratée. Il est contre, enfin il veut supprimer Adopi, donc ça c'est très bien. Il se prononce de façon extrêmement claire pour la neutralité du réseau, en disant que c'est un impératif et qu'on ne peut pas passer outre.
Oui, il parle donc aussi de vie privée, voilà. de droit à ces données. Donc, il y a des choses vraiment intéressantes.
Il y a plein de bonnes choses. Et alors bon, évidemment, on pourra dire que sur la copie privée, il ne veut pas la remettre en cause et tout ça. Mais sur l'essentiel, ça va vraiment dans le bon sens. Bon. Enfin, et c'est même plus que dans le bon sens. Enfin, je le trouve très réglo, quoi.
J'espère que ces idées-là vont percoler et qu'elles vont atteindre d'autres parties. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà de ce côté-là.
Alors, moi, j'espère déjà qu'elles seront effectivement implémentées et que l'ensemble du PS va comprendre l'intérêt, parce que lui, c'est lui. Et après ça, dans un parti, oui. Il y a un ensemble d'individus, pas tous nécessairement recommandables ou qui comprennent les enjeux.
Alors, article suivant.
Alors, PC Impact, malgré ses directives d'interopérabilité, l'Union européenne s'attache à Microsoft, donc un article de Vincent Herman. Donc, on l'avait annoncé.
Et ça s'est fait, il semblerait.
Voilà.
Donc, ça fait mal au cœur, mais Microsoft reste fournisseur de logiciels et systèmes d'exploitation à l'Union européenne, malgré tout ce qui s'est passé.
Notamment les condamnations pour abus de position dominante de l'Union européenne.
Ça fait un peu de bruit politiquement, il semblerait. Il y a des députés qui en discutent. C'est remonté, notre association, l'April, a sorti quelques articles. Donc ça fait du remous, mais en même temps, c'est une continuation sur un contrat existant. Il le prolonge de 3 ou 4 ans. Bon, tant pis. On reverra dans 3 ou 4 ans.
Voilà. Alors, article suivant, donc sur la Tunisie, Webdo, le logiciel libre en Tunisie, enfin le bout du tunnel, point d'interrogation, par Malek Djebnoun.
Donc c'est la continuation de ce qu'on disait déjà, c'est donc un côté très optimiste où dans la foulée des révolutions, le printemps arabe, ils sont en train de discuter, ils veulent vraiment se libérer, voilà. Et utiliser le logiciel libre.
La nouvelle en fait c'est qu'un parti politique
qui est en train de...
voilà, qui met ça en avant. Alors tu as trouvé quand même un autre article assez intéressant, enfin je sais pas si c'est toi qui l'as trouvé, en tout cas dans la revue de presse il y en a, donc qui est toujours en Tunisie, un article de Tunisie au débit, qui est une interview d'un professeur d'université. L'article c'est les défenseurs du libre en Tunisie, plus faux cul tu meurs. Donc selon lui, les gens qui font la promotion du libre sont des Tunisiens qui ont leur boîte et qui veulent gagner des marchés.
Et oui, il accuse d'opportunisme, hein, et il en met une bonne claque. Hein. Et je retiens notamment que son expression, par rébellion, je vais finir par soutenir Microsoft. Et oui, c'est le chien qui se mord la queue.
Voilà, en même temps, je veux dire, on le disait au début, hein, des entreprises qui utilisent le mot comme buzzword pour faire du business, il y en a partout. Est-ce qu'on peut jeter le bébé avec l'eau du bain? Je ne sais pas. En tout cas, ça invite à... On est plutôt, nous, enthousiastes sur la question de la Tunisie. Ça invite un petit peu à la prudence.
On ira discuter avec eux quand ils seront sur solution GNU Linux. Hein, ce sera déjà très bien. Donc l'article suivant, c'est donc Le Tigre, je crois que c'est la première fois qu'ils sont dans la revue de presse, et nous insistâmes les bras ballants à la privation du web de Raphaël Meltz, donc un article qui est en fait une reprise de leur format papier, si j'ai bien compris, et où ils parlent justement de tout ce qui est le nouveau réseau qui est à la mode, les réseaux sociaux et notamment Facebook.
Voilà, alors Le Tigre, excellent journal, avec des articles de fond très complets, très bien écrits, avec des mises en page de folie, avec du logiciel libre. Donc et là, ça reprend des sujets importants, et sur le fait que les gens vont très massivement sur Facebook, Twitter, et donc des systèmes qui sont centralisés sur des gros serveurs, où tout est privé, verrouillé, donc ils soulignent et ils ont raison que quand on écrit quoi que ce soit sur Facebook, tout appartient à Facebook.
Et oui.
Et vaut mieux choisir des licences libres et publier ça par ailleurs, et que du coup tout ce qui fait Internet, et notamment l'organisation réseau maillée, ce genre de choses, est en train de mourir, et que les utilisateurs ils vont par eux-mêmes. Pareil sur Twitter, il dit que c'est un réseau privé, et que quand on a mis en place le téléphone, c'était un monopole d'État, c'était régulé, alors que là on est en train de se jeter pieds et poings liés sur des sociétés privées. On a vu la semaine dernière que Twitter
avait fait gueuler les développeurs
en changeant ses conditions, et du coup on est en train de choisir la...
C'est une deuxième autoroute, beaucoup plus belle peut-être, propre, mais
plus facile,
mais tout appartient aux propriétaires.
C'est comme le côté obscur de la force, plus rapide et plus facile.
Alors pour finir, on va se dépêcher parce qu'on est un peu à la bourre. Donc Les Échos, parole de hacker, article de Eric Filliol. Donc on sort du domaine un petit peu usuel. Là, ça parle de sécurité et la sécurité informatique, notamment, un petit récapitulatif. Il y a beaucoup d'attaques très professionnelles, il semblerait, sur les gouvernements et sur certaines administrations
et
qui ont réussi. Et là, il est en train de mettre en place, enfin, il semblerait se mettre en place une internationale hacker où justement, il y a beaucoup de compétences qui se rassemblent et il y a peut-être un pôle, un nœud qui est en train de se monter sur le réseau mondial.
Alors c'est le point de vue d'Eric Filliol, qui est mathématicien et
je crois qu'il est consultant, il doit être consultant dans la sécurité, voire même les armées, les choses de ce type-là.
Alors il disait qu'on a souvent dit c'est les Chinois qui attaquent et tout ça, et lui dit que c'est un petit peu facile et que pour lui, donc connaissant le milieu, c'est une sorte d'international hacker, et que derrière il y a vraiment une prise de conscience de la part de ces gens-là, donc des hackers qui sont des gens de très haut niveau, qui comprennent comment fonctionne la technologie, et qui voyant toutes ces évolutions vers le filtrage, vers le contrôle.
Oui, ils sont en train de se débattre.
Ils sont en train de se débattre, en train de passer à l'attaque et de menacer tout ça. Bon, il parle aussi du hacking en France, en disant notamment qu'on a un retard considérable parce qu'il y a des lois contre ça, alors qu'en Allemagne, les entreprises et l'État donnent de l'argent pour favoriser les hackers.
Et donc, conclusion, les Allemands sont très en avance et ont des hackers bigrement compétents, alors que nous, on est dans les choux.
Alors, voilà, il dit quand même que 20% des hackers de haut niveau sont français. Donc,
C'est
un petit peu ambigu. En tout cas, l'article, il connaît bien son sujet, etc. L'article est intéressant à lire. Voilà.
Et vivement qu'on ait des lois qui nous favorisent un petit peu tout ça. J'ai envie de pouvoir utiliser légalement Nmap pour regarder les ports réseau. Parce que on a des lois débiles. Hein. Des fois, il n'y a pas à dire. Vive les hackers et vive l'intelligence.
Où ça?
On se retrouve la semaine prochaine.
Ouais, la semaine prochaine. Merci et merci Divergence.
Et on remercie Luc Fievier et Emmanuel Charpentier de l'April pour cette excellente revue de presse. Et avant de la refermer tout à fait, un article à retrouver sur indexel.net. Oracle abandonne openoffice.org et après. L'éditeur rétrocède la marque donc openoffice.org à la communauté open source et se désengage de la commercialisation du logiciel. Reste à savoir qui financera les prochaines versions. C'est donc après les utilisateurs de MySQL puis ceux d'OpenSolaris et de Java. Oracle a réussi un quartet gagnant se mettant à dos la communauté openoffice.org. Il y a quelques mois, les quelques 100 millions d'utilisateurs et développeurs de cette suite open source ont créé le fork LibreOffice pour assurer l'indépendance du projet. Face à cette pression, Oracle a donc préféré jeter l'éponge et vient d'abandonner officiellement openoffice.org. Concrètement, l'éditeur va cesser la commercialisation de la version payante de la suite bureautique et rétrocède la marque openoffice.org ainsi que le développement des prochaines versions à sa communauté open source d'origine, regroupée derrière The Document Foundation. Jusqu'à récemment, les deux logiciels étaient la copie conforme l'un de l'autre, mais une version 3.4 de LibreOffice est en préparation. La décision d'Oracle sème donc le trouble au sein des entreprises qui ne savent plus à quel sein se vouer. Doivent-elles continuer à utiliser openoffice.org ou basculer sur LibreOffice? La situation n'est pas claire. LibreOffice est déjà intégré par défaut dans des distributions GNU Linux majeures telles que Ubuntu et OpenSUSE. D'une part, Oracle se désengage du projet en expliquant que, je cite, le projet openoffice.org serait mieux géré par une organisation axée sur le service et sur une base non commerciale. mais l'éditeur affirme dans le même communiqué son intention de, entre guillemets, travailler immédiatement avec les membres de la communauté afin d'accroître le succès d'OpenOffice. Cette déclaration vise-t-elle à rassurer les utilisateurs d'OpenOffice.org ou ceux de LibreOffice, allez savoir. D'autre part, la suite bureautique en ligne de l'éditeur, Oracle Cloud Office, repose sur le code source d'OpenOffice.org et sur le format de fichier ODF. Oracle ne peut donc pas se désengager totalement du projet. Pourquoi donc annoncer son retrait ? Une seule certitude, la balle est maintenant dans le camp de The Document Foundation, qui va devoir rapidement éclaircir la situation en précisant notamment quelle est la branche, OpenOffice.org ou LibreOffice, qui sera développée à l'avenir. Du côté des soutiens financiers, The Document Foundation peut toujours compter sur Novell, Red Hat et Canonical, qui contribuent déjà à LibreOffice. C'est un article signé Alain Bastide d'Indexel.net. Comme je vous le disais, la partie musicale sera aujourd'hui assurée par l'invité vedette de Libre Ma Musique. J'ai nommé notre deux Fred national et local à travers ici sa formation solo TDBT, The Debug Tentative, dont on écoute une version live de 8. C'est sous licence Creative Commons by SA 2.0. Nous sommes en compagnie de David Olivari. Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Alors, on vous reçoit dans Divergence Numérique pour, entre guillemets, une double actualité, puisque vous serez demain dans le cadre des ateliers Bricolotech à Kawenga pour une pratique, on va dire, collaborative et artistique sur des technologies. Et puis, vous êtes en plein bouclage d'un volet de la zone artistique temporaire qui se tient ce week-end au Parc Méric. On va y venir. Peut-être d'abord vous présenter et nous parler un petit peu, justement, de ces rendez-vous que vous avez animés deux fois pour cette saison à Kawenga.
Alors, moi, je suis David Olivari, j'ai une formation d'informatique plutôt scientifique et théorique à la faculté de Montpellier, ici, où j'ai fait un DEA de mathématiques et informatique. Et ensuite, j'ai travaillé pas mal dans le calcul, dans des logiciels de modélisation, puis dans une start-up autour de la télévision interactive. Et à la fin de cette période de travail dans une start-up, j'ai décidé de m'orienter vers la technique appliquée à la culture et aux arts en général. Mmh. Et depuis, bah, je travaille, je collabore avec des artistes dans le cadre de la réalisation et la production d'œuvres numériques, ou pas d'ailleurs, des fois c'est juste des dispositifs techniques d'accompagnement des œuvres, de détection de personnes, de programmation. Et puis, je développe un travail personnel aussi autour de spectacles mettant en œuvre l'image sur scène ou des dispositifs aussi pour le spectacle de rue. Mmh.
Alors que vous entamiez ces études fort techniques, est-ce que vous pensiez déjà que finalement vous aboutiriez à de la transdisciplinarité artistique?
Non, parce que en fait, au départ, moi, j'étais vraiment passionné. Je le suis toujours par l'aspect théorique, scientifique, fondamental de l'informatique. En fait, ça s'est trouvé que j'ai commencé à pratiquer la danse à Montpellier, dans une école de cirque. Et à travers ce biais-là, j'ai rencontré tout un tas de sensibilités qui m'ont ouverte sur un monde beaucoup plus créatif et poétique. Et en fait, je me suis construit à travers ces deux orientations qui peuvent paraître très antagonistes, qui est d'un côté un travail du corps, qui est des ateliers hebdomadaires, et puis de l'autre côté, une activité qui est plutôt virtuelle, cérébrale. Et j'aime bien, en fait, travailler entre ces deux domaines. Et ça amène une réflexion un peu plus globale sur l'art et sur les dispositifs en général.
Alors pour ce rendez-vous de demain à Kawenga, ça tourne, je crois, autour de microcontrôleurs, ce genre de choses.
Alors à Kawenga, les ateliers Bricolotech, c'est plus un lieu de rencontre et d'échange que j'anime qu'un atelier vraiment formalisé avec un cours et une présentation plus magistrale. Donc la première session, il y a un mois, on l'a fait effectivement plus sur les microcontrôleurs, sur un petit peu les dispositifs existants, les dispositifs économiques existants tels que l'Arduino. J'ai aussi parlé de dispositifs encore plus petits, comme le MSP430. Mais demain, en fait, moi je me suis rendu compte au dernier atelier que les gens avaient beaucoup de questions, donc assez personnelles, donc c'est aussi un lieu un peu où les gens viennent parler de leurs projets, on participe, on consulte ensemble un peu les possibilités techniques. Et donc je me suis dit que pour demain, j'allais orienter un petit peu la discussion autour des méthodologies. Mmh. Je me suis rendu compte que la plupart des gens, quand ils partaient dans le développement, partaient du côté de la technique et pas tellement de l'objet final. Et donc demain, on travaillera bien sûr sur la partie technique, mais je ferai aussi une petite introduction à des méthodes qu'on utilise dans l'industrie et dans les ateliers logiciels, qui s'appellent les méthodes agiles, qui permettent un petit peu de créer des cycles de développement, de se poser les bonnes questions au départ et de suivre un projet du début à la fin avec des outils, notamment sur le net ou même des outils papier, permettre de travailler dans de bonnes conditions. Oh. Donc voilà, ça sera un peu la thématique de demain, étant donné que j'ai vraiment senti que c'était un manque. Les gens arrivent en me disant, voilà, je voudrais utiliser un capteur pour faire ceci. Et moi, j'ai envie de leur dire plutôt, mais essayez de vous poser la question, c'est quoi le rendu, qu'est-ce que ça raconte? Parce que dans toutes ces installations-là, ce qui est important, c'est aussi l'utilisateur, puisque l'interactivité met en œuvre un utilisateur. Et c'est plutôt de ce côté-là que je voudrais qu'on arrive à discuter.
Et puis, pour terminer, là, vous êtes donc en plein bouclage d'un diaporama interactif intitulé « Mérictionnaire » qui sera visible bien par divers moyens, que ce soit à l'orangerie du Mas pendant la zone artistique temporaire au domaine de Méric ou sur le site internet ou sur l'application ZAD pour iPhone et bientôt sous Android, a-t-on pu lire. Et ce diaporama interactif est fait en HTML5.
Alors oui, la partie qui sera visible en ligne et sur l'orangerie est faite en HTML5. je voulais, en fait, moi j'ai jamais fait de Flash parce que c'est pas trop mon univers au départ, c'est plutôt destiné à un univers de graphiste. J'avais envie de développer un objet multimédia, c'est-à-dire qui mette en œuvre des images, des transitions et une bande son, des pistes sonores sous la forme d'un panorama et d'une mosaïque d'images. Donc ceux qui auront l'occasion de le voir pourront le constater. Et on arrive à une interactivité vraiment très proche de ce qu'on a pu faire en Flash jusqu'aux années, enfin ces dernières années. Et donc c'était pour moi un peu l'occasion d'utiliser un nouvel outil qui est du libre, hein, qui s'appelle jQuery. Parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que depuis 7 ans, donc je travaille dans le milieu de l'art et de la culture, je n'utilise que des logiciels open source. Et le Mérictionnaire est entièrement réalisé avec des outils issus du monde de l'open source, que ce soit les outils de retouche d'image, de correction, de montage sonore, puisqu'il y a 53 pistes son, il doit y avoir presque 600 images traitées, et donc tout le dispositif est réalisé avec des logiciels du monde du livre, du libre.
Alors là, vous disiez open source, libre, est-ce que vous faites la distinction entre les deux ?
Alors, est-ce que je fais la distinction entre les deux ? Vaste débat. Je ferai pas la distinction entre les deux parce que je me sens pas un intégriste. Moi, je suis un utilisateur avancé, un développeur aussi. Je saurais pas trop en parler bien. Je pense qu'à Montpellier, il y a des gens qui savent en parler très bien, qui sont passionnés par ce genre de sujet-là. Moi, je considère que des outils avant tout, et effectivement je suis pas un intégriste de cet aspect open source libre. Je travaille avec les outils développés par Google, notamment Chrome, mais ça dépend les domaines. Il y a des domaines où je m'orienterai vraiment radicalement vers une solution open source parce que je vais avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis, d'aller au niveau du code, et d'autres à d'autres moments je vais plutôt utiliser des outils libres, même s'ils sont moins open source, pour des raisons de facilité et d'utilisabilité.
Je conseillerais à tous ceux qui nous écoutent d'aller aussi faire un tour sur david-o.net pour voir les nombreux projets sur lesquels vous avez travaillé, en tout cas dont vous parlez sur votre site. Et puis le rendez-vous, c'est demain à Kawenga pour donc cet atelier.
C'est 14h-19h et c'est gratuit pour les adhérents de Kawenga.
Merci beaucoup David Olivari.
Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, comme quoi la distinction entre libre et open source n'est pas évidente pour tout le monde. C'est pourtant bien simple, ma bonne dame. Libre, ça en général, ça veut dire qu'on ne peut pas refermer le code derrière. Voilà, c'est à peu près ça. Pour l'heure, un petit peu de musique avec non pas The Debug Tentative à lui tout seul et sans personne, mais avec The Garys. En l'occurrence, le titre que nous allons écouter, c'est un titre presque de circonstance. C'est La Plage Beach, extrait de l'album Garys dans la brume. 6 minutes 14 de musique sous licence Creative Commons by SA 2.0, extrait donc de cet album sorti chez l'excellent label Anti Blues, qui n'est autre que le leur de label. We'll be right back. The Beach, la plage, TDBT and the Garys, pour les amoureux de musique dans tous les sens. Jean-Marie Bourgogne est avec nous, il est responsable du programme Montpellier Territoire Numérique. Il est là pour nous en parler, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, c'est suite, y a un article qui était sorti sur Regards sur le numérique, qui faisait un petit peu un historique de tout ce qui s'est passé au niveau de l'open data en France. Où en est-on avec des villes qui ont été pionnières comme Rennes, qui depuis le 1er octobre 2010 permet de retrouver sur son site une série de jeux de données concernant la vie quotidienne, l'urbanisme et surtout les transports avec des applications, etc. Pas mal de villes y sont venues, Nantes, Marseille, Bordeaux, évidemment Paris et Montpellier, qui dans le cadre de ce programme Montpellier Territoire Numérique a commencé à publier au mois de février des données relatives à l'espace public, voirie, assainissement, aux espaces naturels, parcs et arbres, aux transports, qui sont dans un premier temps mises à la disposition d'un cercle restreint d'utilisateurs avant une ouverture au grand public qui s'est passée ces jours-ci. Les créateurs d'applications pourront aussi solliciter des aides financières de la ville en contrepartie de la fourniture gratuite de leurs services. Mais avant de parler de tout ça, c'est une initiative qui a démarré, je crois, à l'automne dernier.
Oui, tout à fait. C'était une demande des élus de la ville, donc notamment de Michael Delafosse et puis de la Direction Générale des Services, qui voulaient continuer l'investissement que Montpellier avait fait dans le numérique, qui avait commencé par le programme Pégase, qui était un programme d'infrastructure haut débit, et qui souhaitait aller vers les services numériques pour la ville. Et on a eu des échanges dans le courant de l'année 2009 et début 2010 pour définir qu'est-ce que pourrait être le programme qui s'appelait Ville Numérique à l'époque. Et on s'est mis d'accord dans l'été 2010 pour lancer ce programme-là qui a démarré effectivement en septembre 2010 et qui a pris comme nom non pas Ville Numérique, puisqu'en fait le périmètre de ce programme n'est pas que le périmètre de la ville, il est le périmètre de l'espace dans lequel vivent les gens qui pratiquent la vie de Montpellier. Et ce périmètre, c'est la ville, c'est l'agglomération, mais c'est au-delà de l'agglomération, l'endroit où les gens habitent. Ça peut être Sète, ça peut être Nîmes, ça peut être Ganges, et où ils viennent travailler, c'est Montpellier. Donc on a rappelé ce programme-là, Montpellier Territoire Numérique, pour bien montrer que c'est un périmètre beaucoup plus large que la ville. Et puis il a gardé encore ce nom de numérique, mais ce n'est pas un nom qui va très très bien, puisqu'en fait le numérique est utilisé en tant que moyen, mais pas en tant qu'objectif. C'est un programme qui a plutôt comme vocation à être un programme d'innovation sociale et dans lequel le numérique est un des moyens de favoriser cette innovation. On y reviendra, je pense, plus tard dans la discussion. Cela étant, donc, il a été lancé en septembre 2010. Il a eu quelques mois de réflexion, de rencontres avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ce programme-là à Montpellier. J'y reviendrai. Et il est passé en conseil municipal au mois de février 2011, donc il y a à peu près 2 mois, pour être officiellement lancé. Hein. Donc depuis 2 mois, le programme est sorti de terre. Et voilà, on avance avec beaucoup d'acteurs. On y reviendra, je pense, aussi.
Alors, on a la furieuse impression que, peut-être avec un certain retard, ce qui est assez normal finalement, après avoir vu le monde de l'entreprise s'emparer des nouvelles technologies et construire des business models dessus, et, parfois plus business que modèle, on a l'impression justement que, à travers aussi le logiciel libre en France, qui a pris, qui a acquis de la visibilité et qui, même sur Montpellier, a été, on va dire, entre guillemets, consacré en tout début d'année aussi sur le fait que la ville s'est engagée à, sous condition qu'il n'y ait pas de recul technologique pour les utilisateurs, à utiliser des logiciels libres. Plus généralement, les débats qu'il y a autour d'Adopi, du numérique en général depuis quelques années, on a l'impression que les élus et les citoyens sont plus sensibilisés qu'auparavant sur ces questions de finalement utiliser des technologies pour ce qu'elles ont de bon sans tomber dans un piège technologico-commercial, etc. On s'empare des technologies pour des choses civiques, là où auparavant d'autres s'en étaient emparés pour parfois mener un petit peu le client en bateau.
Oui, alors en fait, il est quand même légitime que le monde économique soit impliqué dans cette on va dire révolution technologique. Donc il n'est pas anormal que les entreprises fassent du business avec le numérique. Mais effectivement, c'était un peu une chasse gardée où on était plutôt dans une logique d'offre. Voilà. Et de plus en plus, sûrement soutenu par les élus, mais aussi fortement demandé par les citoyens, hein, par les habitants, par vous et moi, le citoyen a dit oui, mais enfin bon, moi, l'offre, c'est une chose, mais j'ai des besoins. J'ai des besoins essentiels de communication, d'innovation, de travail. Et comment moi, je peux m'emparer du numérique en tant que citoyen. Et effectivement, cette tendance devient très puissante. On voit bien d'ailleurs qu'elle permet même d'organiser des révolutions.
Oui.
Alors, c'est pas Facebook ni Twitter qui a fait qu'il y a eu la révolution en Tunisie ni en Égypte, mais ça a permis un travail collectif d'organisation, mais qui, elle, venait d'un besoin essentiel qui était de ces peuples-là, par exemple, de mettre fin à une dictature. Bon. Donc, la demande sociale est très forte. L'appropriation par les citoyens des technologies est très forte. Aujourd'hui, pas tout le monde, bien sûr, mais beaucoup de gens savent utiliser le web, savent utiliser un téléphone portable, savent utiliser parfois Facebook, et dans un cas encore plus réduit, Twitter. Donc l'appropriation des technologies est très forte par les citoyens, et la demande de vos citoyens, c'est nous, on n'est pas juste des consommateurs, on est des gens gens engagés dans la vie publique, on est associatif, on est militant, on est chercheur, on est artiste, et on veut utiliser les nouvelles technologies pour en faire ce qu'on veut faire, notre projet.
Ou tout plus simplement usager des services publics.
Et usager des services publics. Alors effectivement, ça c'est le sujet propre du programme Montpellier Numérique. Il ne s'agit pas dans ce programme-là de favoriser l'accès au numérique pour être dans son bureau, pour faire un arbre généalogique, même si c'est très très important pour ces amateurs. L'ambition du programme Montpellier Territoire Numérique, c'est précisément pour que les habitants de Montpellier puissent imaginer, concevoir, réaliser et utiliser des nouveaux services urbains. Hein. Donc la démarche d'ailleurs... vraiment fondamentale de ce programme-là était la suivante. C'était les services urbains viennent en général des institutions, hein, qui sont d'ailleurs très compétentes et qui très expérimentées sur le sujet, hein, donc les villes, les agglomérations, les opérateurs techniques de services délégués, bon, très bien. Donc une innovation au fond qu'on appelle souvent descendante, donc des gens, des professionnels imaginent des services et le proposent aux usagers, et on s'aperçoit que parfois ces services-là ne correspondent pas exactement aux besoins des usagers. Bon. Et que par ailleurs, les usagers, ils ont des besoins qui ne sont pas complètement pris en compte. Et donc, ce qu'on voudrait faire dans ce programme Territoire numérique, c'est justement favoriser la rencontre de ces acteurs, les acteurs institutionnels, les professionnels du sujet, avec les acteurs engagés de la société, qui, à travers le numérique, peuvent à leur tour compléter, imaginer des services. Donc, l'entrée, elle n'est pas numérique, elle est sociale. C'est-à-dire que... sur les défis de la ville, alors c'est quoi les défis de la ville? Ben, c'est la mobilité, c'est le transport, c'est le lien social. Alors quand on dit le lien social, il faut aller un peu plus loin. C'est quelles sont les relations entre les générations, comment les jeunes peuvent aider les plus âgés, comment on aide ceux qui sont dans le handicap ou dans une certaine forme de difficulté sociale. Le lien social, c'est ça, hein, c'est quand même des sujets de convivialité, hein, de solidarité. Bon. Comment on aborde le problème de la ville durable? Alors, la ville durable, c'est aussi un vaste sujet, mais on peut l'aborder par la biodiversité. Comment on retrouve les ressources naturelles de notre territoire? Comment on s'y intéresse? Comment on peut les protéger? Comment on peut proposer des choses pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe sur ce territoire? Donc c'est tout ça, ces sujets sociaux qu'on veut aborder. On va l'aborder avec des entrées très thématiques. Hein. On va faire des ateliers de travail autour du transport, autour de la biodiversité, des choses comme ça. Et puis ensuite, on regardera comment on peut favoriser la création des services. Bon, ça sera le sujet très important technique que la ville abordera. Mais c'est un sujet qu'on abordera en soutien de l'innovation sociale et pas en majeur. Quoi, voilà.
Alors il y a eu plusieurs réunions de travail parce que c'est un vaste chantier, c'est assez colossal, on va dire, la tâche qui peut y avoir devant une collectivité pour porter ce type de projet, quand il s'agit justement de mettre des moteurs et des choses concrètes derrière ces étiquettes comme la ville durable, etc. Il y a eu une réunion le 23 mars, une le 7 avril, il y en aura une le 19 avril. Quelle est l'ambiance dans ces réunions et comment ça se passe?
Alors, le projet, en fait, il a deux dimensions. Il y a une première dimension qui est identifions tous les acteurs qui sont innovants sur le territoire de Montpellier. Et il y en a beaucoup, mais depuis très longtemps. Hein, oui. On n'a pas attendu que le programme Montpellier Territoire numérique existe pour découvrir l'innovation. Elle existe depuis longtemps à Montpellier. D'ailleurs, c'est sûrement... Une, l'image que Montpellier a à l'extérieur, c'est une ville innovante, dynamique. Donc, c'est pas par hasard que, voilà, que le programme maintenant s'installe comme ça ici à Montpellier. Mais le premier travail, c'est effectivement de fédérer tous ces acteurs-là et de leur proposer de travailler ensemble sur ce sujet. Alors, ces acteurs, ils viennent de quatre grands champs, qui sont le champ des collectivités, donc, c'est-à-dire la mairie de Montpellier, mais aussi l'agglomération, mais aussi le conseil général, mais aussi le conseil régional de Languedoc-Roussillon, qui vont intervenir progressivement dans ce programme-là. Parce qu'un citoyen, lui, il ne veut pas trop savoir si la compétence, elle appartient à la ville ou à l'agglomération. Pour lui, le transport et le nettoiement ou la propreté, c'est la collectivité. Il ne veut pas trop savoir si ça vient de la ville ou de l'agglomération. Bon. Alors, il y a des organisations différentes, il faut qu'on arrive à les synchroniser. Donc, il y a tout ce champ des collectivités qu'on essaye d'associer au programme, et on y arrive. Bon, voilà, après, il y a du tempo politique qu'il faut arriver à gérer, mais bon, tout se passe pas trop mal. Après, il y a un grand champ qui est très intéressant, qui sont le monde des associations. Les associations, en fait, elles représentent assez bien les usagers. Il y a des associations du quartier, des associations sur les arts, des associations sur le handicap. Donc, tous ces gens-là sont très actifs, ont plein de projets dans leur tiroir, les mènent depuis longtemps, et on les associe aux projets. Bon. Ensuite, il y a tout le champ économique. Bien sûr, à partir du moment où on a des idées sur des programmes, sur des réalisations, parfois il nous manque la technologie, le savoir-faire technique, l'expertise technique. Et donc, ça permet aux entreprises montpelliéraines, mais y compris en dehors de Montpellier, bien sûr, de proposer leurs services pour aider soit la collectivité, soit les associations à produire leurs services. Et pour terminer, il nous semblait très important d'associer le monde universitaire ou de l'enseignement supérieur de la recherche. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça donne l'occasion à des écoles, d'ingénieurs, de chercheurs, de sociologues, des géographes, d'économistes, de trouver là un champ de travail scolaire, enfin pédagogique d'une part, mais aussi académique, de recherche. Donc le CNRS, le LIRM, il y a beaucoup de laboratoires à Montpellier qui sont associés au programme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a à peu près 40 structures différentes qui contribuent très activement au programme. Donc ça, c'est le premier point, c'est les associer, les identifier bien sûr, les associer, et animer, et donc effectivement, ces comptes rendus, c'est le compte rendu des différents travaux. Bon. Premier point, le réseau. Le second point, c'est qu'est-ce que la ville peut faire sur ce sujet-là. Il se trouve que, comme je le disais, ce n'est pas l'objectif de la ville de définir les services qu'on va proposer aux citoyens, puisque justement, on attend que ce soit les citoyens qui les imaginent et qui les produisent. Donc on s'est dit, on va mettre en place des ressources techniques accessibles gratuitement par l'ensemble des Montpelliérains et des gens qui habitent l'agglomération, donc on va dire à 500 000 personnes. On va mettre en place des moyens techniques qui vont permettre d'abaisser la barrière à l'innovation. Donc cette notion d'abaisser la barrière à l'innovation est très importante, puisque si on n'abaisse pas la barrière, seuls les gros opérateurs classiques, très compétents mais fortunés quelque part, avec des moyens techniques, logistiques, financiers, d'ingénieurs, etc., peuvent créer des services. À partir du moment où on dit l'association du quartier veut faire un service pour aider le transport scolaire dans les écoles, etc., il faut que ces gens qui n'ont pas les moyens techniques ni financiers aient des possibilités que met à disposition la ville. Bon. Et donc là, on a identifié plusieurs programmes, enfin plusieurs projets. Le premier projet est l'open data, hein, comme vous le signifiez. C'est quoi l'open data ? Ben, c'est dire on va fournir les données que l'on a, qui permettent aux gens de comprendre leur territoire, et ensuite d'imaginer des services. Typiquement, on est parti des espaces verts, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on a comme ressources sur les espaces verts ? Bon, on a les arbres de la ville, 33 000 arbres de la ville. Bon. Donc on a produit un fichier qui présente ces 33 000 arbres. Ensuite, on a produit une application qui permet de présenter ces arbres sur un fond de carte, qui permet à tout le monde, de très facilement, sur un fond de carte de type Google Maps, voilà, de connaître tous les arbres qu'il y a dans la ville. Bon. Et puis après, on s'est dit, ben, c'est très bien, mais il y a beaucoup d'arbres qui ne sont pas gérés par la ville, mais qui sont soit gérés par des institutions privées, soit par des individus dans leur jardin. Donc on a mis en place des outils qui permettent à l'ensemble des gens qui ont des arbres dans leur périmètre de les déclarer. Alors, c'est quoi l'intérêt ? Ben, c'est qu'on passera de 33 000 arbres connus à 60 000 arbres connus. Et du coup, ça change complètement la compréhension du territoire en termes de biodiversité. Mais ça permet aussi, si on fait des opérations de soins des arbres pour tuer les chenilles, etc., d'imaginer qu'un service technique vienne traiter les arbres de la ville, mais aussi vienne traiter les arbres au jardin botanique, au campus, dans les jardins de ma résidence, pour justement éradiquer ces parasites. Donc on voit que on fournit de la donnée, mais après on permet aux gens, un, de les connaître, ces données, un, de les utiliser, et puis deux, d'en fournir à leur tour. Donc il y a un cercle vertueux sur la production de contenu, donc dans les deux sens. Mmh. Et ça, c'est vraiment un dispositif qui permet aux gens d'aller plus loin. On a imaginé des services autour du transport et autour des espaces ouverts au public qui permet à quelqu'un qui habite dans le petit bar de trouver un parc gratuit pour ses enfants et de connaître les transports en commun qui lui permettent d'y aller ou éventuellement de prendre un chemin par vélo ou à pied dans Montpellier. Bon. Donc ce projet Open Data est constitutif de ces dispositifs qui abaissent la barrière à l'innovation. Alors, ce projet-là effectivement, a été lancé on va dire, à fin d'année 2010. On a ouvert le site en bêta test au mois de février et depuis 15 jours, il est ouvert au grand public. Tout le monde peut y accéder. L'adresse, c'est opendata.montpellier-numérique.fr. Mmh. Il y a dessus aujourd'hui une trentaine de jeux de données qui ont été publiés. Il y a 5 ou 6 applications qui utilisaient déjà ces données pour du calcul de transport multimodal, pour des choses comme ça. L'idée, c'est qu'effectivement, on enrichisse progressivement ces données-là. Rennes, qui est la première, est arrivée déjà à plus de 200 données publiées. Donc, plus de 200 jeux de données publiés, donc on voit que c'est assez colossal. Et les États-Unis, qui ont lancé le projet Open Data il y a déjà 4 ans, comme San Francisco, sont à plus de 1000 jeux de données, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses encore à faire sur ce sujet-là. Ça, c'est un des projets. Il reste encore 4 projets identifiés qu'on va lancer progressivement. Le prochain sera sans doute celui qu'on appelle la Cité des écrans, qui consiste à installer dans l'espace public de grands écrans interactifs de type... téléphone, PDA ou iPhone, et qui permettront aux gens de créer par eux-mêmes des applications qui pourront publier dans la ville pour que les gens puissent trouver des services d'information, des services de transport, des services culturels, de connaissances, de jeux, de communication. Bon, voilà, il y aura plein de services qui vont se mettre en place. L'idée étant que ce dispositif soit installé dans l'espace montpelliérain à la rentrée 2011, c'est-à-dire en septembre, octobre, sans doute d'ailleurs de la nouvelle mairie pendant l'automne. Quoi, voilà. Mmh.
Donc en fait, si on a bien compris, qu'on soit versé dans le côté technique des choses, on peut via le site savoir ce qui se passe et proposer éventuellement de contribuer. On peut, si on est usager, citoyen de la ville et qu'on veut savoir ce qui se passe, on peut aussi éventuellement proposer si on a des idées. Après, c'est on va dire la ville et puis au travers de ce travail, de ce coworking, de ce travail collaboratif que finalement on s'empare de toutes ces propositions pour ergonomiser la ville numériquement.
Alors oui, c'est ça, mais le danger pour moi qui appartient à la ville de Montpellier, c'est de ne pas faire tout le travail à la place des acteurs, quoi. Il faut vraiment laisser aux acteurs leur légitimité, leurs compétences, leur créativité. Il y a plein de projets qui existent à Montpellier. Donc l'enjeu là-dessus est de fédérer ces dynamiques et de faire en sorte que les services et les dispositifs qu'on mettra en place ne viennent pas de ce que la ville a pensé à un moment donné, mais deviennent de tous les acteurs. Donc effectivement, il faut que tous les gens qui ont envie de s'associer à ce programme s'expriment, se fassent connaître et participent, voire pilotent dans ce cadre-là des projets qui ont un sens pour la ville. Donc il y a un gros travail effectivement d'entraînement des réseaux au fond. Hein, voilà.
Alors, il y a une expression à la mode qu'on n'a pas employée, mais au cœur de laquelle finalement on est là, c'est démocratie participative en quelque sorte.
Alors oui, effectivement, on est vraiment dans le fond d'une approche de démocratie participative. Mais le terme est un peu trop valise, quoi. Qu'est-ce qu'on y met dedans, hein. On y met plein de choses. C'est pas une fin en soi complètement. Pour moi, c'est un moyen, hein. Et moi, je discutais d'ailleurs étroitement avec les équipes de la ville qui vont lancer les printemps de la démocratie à nouveau au mois de mai à juin, pour regarder comment, dans ce dispositif de démocratie participative, on peut très concrètement s'appuyer sur cette volonté de faire participer les citoyens pour dire, OK, sur les sujets... par exemple de la mobilité, puisque c'est un des thèmes de cette année, comment on peut invoquer du débat public, comment on peut solliciter la créativité, comment on peut solliciter les demandes, les besoins des citoyens, comment on peut accompagner au fond ces citoyens, imaginer une façon de répondre intelligente aux problèmes du transport. Alors c'est la pollution, c'est le temps perdu, c'est le stationnement, c'est le transport alternatif doux, il y a mille choses à aborder au fond qui touchent directement les citoyens. Et on va sans doute utiliser les printemps de démocratie, ou bon, si on n'arrive pas à le faire cette année, on le fera peut-être un peu plus tard, mais comme justement un dispositif permettant d'alimenter le programme Montpellier Territoire Numérique, et réciproquement, comment le programme Montpellier Territoire Numérique peut aussi apporter des propositions très concrètes de débat public et de propositions par les citoyens.
Alors, je terminerai justement, entre autres données qui sont visualisables, justement en parlant de circulation, les flux quotidiens d'actifs sortant pour aller travailler, on peut avoir des informations là-dessus, ce qui aide aussi parfois à mieux comprendre comment on est coincé dans les embouteillages des fois.
Oui, alors c'était intéressant. Bon, ce jeu de données-là étant soit pas le plus intéressant, mais il y avait d'abord, on s'était dit, puisqu'on produit des données... Par où on commence ? Des données, il y en a des milliers disponibles. Donc on s'est dit quel thème on va employer, on va utiliser pour lancer ce projet d'Open Data. Et on se dit finalement, il y a deux thèmes qui sont assez naturels, qui ont un grand consensus politique, quel que soit le bord dans lequel on est, qui étaient la biodiversité et le transport. Le transport étant le problème numéro un, non seulement du Montpellierain, mais des urbains en général. Bon, il y a d'autres problèmes effectivement aussi autour de l'exclusion ou de l'accès au logement, mais ouais, on va dire que le transport est un des problèmes vraiment très 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 importants de l'urbain. Voilà. Donc on s'est dit comment aborder tout le thème du transport, et donc on a fait en sorte de travailler sur des données. Alors la ville n'est pas légitime complètement sur le transport puisque c'est une compétence de l'agglomération.
Certes.
Donc là, les discussions sont en cours avec l'agglomération pour trouver les moyens de travailler ensemble sur ce sujet. Il y avait donc ce sujet du transport, et donc on s'est dit quelles sont les données qu'on peut trouver autour du transport. Donc on a sollicité les opérateurs, le conseil général, et y compris des données venant de la CCI qui rendait compte des trafics entre les différentes communes du département. Donc c'était pour illustrer à la fois que les données ne viennent pas que de la ville, mais d'autres opérateurs, enfin d'autres institutions, là c'était la CCI, et c'était aussi pour s'assurer que les données, que la CCI étant impliquée dans ce projet Open Data, commence à nous donner des données sur le transport, mais pourra nous donner par la suite, et d'ailleurs c'est des discussions qui sont assez avancées avec la CCI, d'autres informations autour de l'économie, du tourisme, du commerce, etc. Donc il y a plein d'informations qui viennent de la CCI. Et l'autre thème qu'on voulait aborder, c'était à côté du transport, la biodiversité, parce que là, on sent qu'il y a une demande très importante du citoyen pour mieux comprendre les enjeux de la biodiversité dans leur territoire urbain, donc le long du Lez, dans les parcs, dans les rues, dans les arbres, etc. Et donc là, il y a aussi un certain nombre de gisements de données qui viennent soit de la ville, mais aussi de l'ADREAL, enfin du ministère de l'Environnement. On va essayer de faire un moissonnage, comme me disent mes amis de Télébotanica, un moissonnage de données autour de la biodiversité dans les prochaines semaines. Voilà.
Et puis pour apprécier la biodiversité de Montpellier, pour terminer, je dirais à tous ceux qui nous écoutent de ne pas oublier de faire un petit tour au domaine de Méric ce week-end, puisque la zone artistique temporaire s'y tiendra et propose pas moins de 100 rendez-vous qui se trouvent tous quand même un petit peu au cœur de l'interdisciplinarité du numérique et de la culture. Jean-Marie Bourgogne, merci.
Merci beaucoup.
On vous souhaite un bon travail dans les semaines, les mois à venir pour ce chantier qui finalement est un chantier très jeune.
Il est très jeune, mais il durera pendant longtemps, puisque aujourd'hui, le seul horizon que l'on a, c'est 2014, qui est les prochaines échéances électorales, mais le programme durera après.
Il a été conçu pour aller bien au-delà.
Au-delà. Je rappelle d'ailleurs que le programme de la ZAT qui a lieu à Méric ce week-end est aussi publié en open data sur le site de l'open data de Montpellier Numérique. Voilà.
Absolument. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir. Et voilà donc pour cette interview. On va refermer rapidement cette divergence numérique avec quelques rendez-vous de l'agenda du Libre qui, pour la semaine à venir, vous propose par exemple du côté de la Belgique. Tiens, commençons par nos amis belges d'aller à Charleroi pour une réunion de la CLIC autour de Firefox 4. Ça sera samedi. Et puis la semaine prochaine, mercredi à Bruxelles, il y aura un Lean Studio, l'open source au service de votre stratégie digitale. Et puis le lendemain à Namur, la configuration de serveurs sous GNU Linux. Pour ce qui concerne ce qui se passe un petit peu plus près de chez nous, sachez que demain, mais pour ceux qui goûtent la rediff, c'est un peu mort. Ce sera donc un atelier chez Kawenga de 14 à 19h. À Castelnau-le-Lez, ce mardi 5, ce seront les rendez-vous traditionnels des ateliers libres. Et puis sinon, on pourra aller à Téhéran le même jour pour tourner autour de Open Office, agenda du libre.org. Nos amis québécois pourront, ce qui les concerne, aller à l'heure Ubuntu à Chicoutimi. Ce sera le 27, mercredi prochain. Puis le 30, il y aura une Ubuntu Party ce week-end du 30 au 1er mai à Supinfo Montréal. Donc soyez-y, agenda du libre.qc.ca pour les intimes. C'est ainsi que se referme cette divergence numérique 106e du nom. Je salue Pascal Rullier qui nous écoute de l'autre côté de l'Atlantide. Et puis tous nos auditeurs de Radio Escapade et CKIA, je vous souhaite de rester libre et de passer une bonne semaine.